Très rapidement, quelques mots d'introduction de M. Luc Brisson, que vous connaissez déjà, puisque les élèves de filière scientifique travaillent sur son édition du Banquet de Platon. Hein. Donc Luc Brisson est un des plus grands spécialistes mondiaux de Platon, et je tiens surtout à souligner le travail important d'édition et de traduction qui est fait en Garnier-Flammarion, c'est-à-dire dans des éditions accessibles, dans tous les sens du terme, et notamment aussi son travail sur Plotin, c'est-à-dire l'un des philosophes néoplatoniciens les plus importants, également disponible en Garnier-Flammarion, ce qui est un tour de force. Bien, je ne vais pas parler plus longtemps, vous allez entendre une conférence dont le titre est un peu paradoxal, puisqu'on va vous parler d'une absence, en l'occurrence celle du terme de métaphysique dans la philosophie antique. Et je laisse la parole à M. Brisson.
Oui, donc merci beaucoup pour cette invitation et merci beaucoup pour votre présence. Ce sera une communication sur, comme on l'a dit, sur un sujet paradoxal, c'est-à-dire comment expliquer l'absence du terme métaphysique en grec ancien. J'ai donné en 1998 une conférence à l'Université Laval à Québec, une communication qui a été publiée en 1999 par les presses de l'Université Laval, mais aussi par Vrin. Donc, je vais en gros reprendre cette article, mais je vais développer sa seconde partie de façon à la rendre plus accessible à ceux qui sont ici. Donc, si vous allez chez Vrin, vous verrez qu'il y a deux tomes d'un ouvrage qui s'appelle La métaphysique. Le deuxième tome est beaucoup plus épais que celui-là. Mais mon article se trouve dans ce premier tome. Donc, quel est le problème? Le problème est relativement simple, c'est-à-dire que ceux qui connaissent le grec et qui utilisent les dictionnaires s'aperçoivent que le terme métaphysique, je ne mets pas la finale qui peut être féminine, masculine ou neutre, ce terme n'existe pratiquement pas dans les dictionnaires anglais, français, et dans le dictionnaire italien de Montanari, il n'y a qu'une seule occurrence du terme dont je vais essayer de montrer qu'elle n'est pas valide. Et si vous regardez sur le TLG, donc le Thesaurus Linguae Graecae, sur Internet, vous apercevrez qu'il n'y a que deux occurrences, et ce sont les deux occurrences dont je vais vous parler ce soir et dont je vais essayer de montrer qu'elles ne sont pas valides, qu'il faut lire d'autres manuscrits et non pas ceux qui ont été publiés. Donc, vous avez deux textes sur la même feuille, je crois, recto verso. Donc, un texte de Simplicius et un texte de Basile de Césarée. Donc, ce sont des noms qui vous paraîtront très bizarres, mais je vais essayer d'être très simple et très clair et de vous faire comprendre les enjeux de ces textes. Donc, on va commencer par Simplicius. Simplicius, vous ne connaissez probablement pas le nom. Simplicius, c'est un néoplatonicien du VIe siècle de notre ère. À l'époque, depuis le Ve siècle, il y avait une école philosophique néoplatonicienne à Athènes. Cette école était patronnée, était subventionnée et était défendue politiquement par une famille de païens, puisqu'à l'époque, les chrétiens étaient dominants dans l'Empire. Donc, qui était Simplicius? Simplicius, c'est un prof dans cette école néoplatonicienne, qui à l'époque était dirigée par un certain Damasius, lequel donc enseignait les dialogues de Platon. Et Synthesius, qui était aussi un néoplatonicien, était un commentateur d'Aristote. Et c'est la raison pour laquelle Simplicius est surtout connu pour son commentaire à la physique d'Aristote, son commentaire aux deux kilos et son commentaire aux catégories, notamment. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Simplicius est notre source pour connaître les présocratiques. La plupart des témoignages des présocratiques, en tout cas les plus intéressants, viennent de Simplicius, qui, commentant les ouvrages d'Aristote, citait les textes des présocratiques qui étaient seulement nommés par Aristote. Et c'est la raison pour laquelle on a constituer les fragments des présocratiques à partir des commentaires de Simplicius. Et donc, sur la première page, vous avez justement un passage du commentaire de Simplicius au Dekelo d'Aristote, au traité du ciel d'Aristote. Et donc, je termine sur Simplicius. Donc, Simplicius assistait Damasius qui enseignait Platon et Simplicius enseignait Aristote. Et ce Simplicius va être expulsé d'Athènes avec toute l'école néoplatonicienne en 529 à la suite d'un décret de l'empereur Justinien qui interdisait un enseignement païen dans l'Empire. Donc, on ne va pas lire ce texte ce soir, tout simplement parce que il n'a aucun intérêt pour vous. Il s'agit tout simplement d'écrire le système du ciel d'Aristote et le nombre de sphères. Est-ce qu'il y en a 47, 45, 42? Donc, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est que dans le dernier paragraphe, on peut lire, donc, d'ailleurs, admettrait-on que la Lune seule n'a pas de sphère rétrogradante, on n'en arriverait pas au nombre donné, ce qui a beaucoup troublé Alexandre et Porphyre dans les commentaires qu'ils ont composés sur le livre 12 de la métaphysique. Donc, ce qui est intéressant, je n'irai pas plus loin parce que, encore une fois, je vous dis, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour vous. Ce qui est intéressant, c'est que, on retrouve dans un manuscrit F, dans la bibliothèque de Saint-Marc à Venise, un manuscrit du 15e siècle, on a Thèse métaphysiques. Donc, une occurrence métaphysique en grec ancien. Mais en fait, si on utilise un autre manuscrit, un manuscrit de Modène, plus ancien, 13e, 14e siècle, on a ton meta, ta physica. Donc, c'est le titre, en gros, que l'on donne à ce qu'on appelle la métaphysique d'Aristote. Le problème, c'est que ce titre est un titre qui a été donné bien après qu'Aristote ait composé ce que nous appelons la métaphysique. Il faut savoir que dans l'Antiquité, et c'était vrai aussi pour Platon au IIIe siècle de notre ère, les auteurs donnaient rarement un titre à leur œuvre. Et donc, ce sont plutôt les bibliothécaires, parce qu'ils devaient ranger les œuvres qui étaient écrites sur les rouleaux dans les bibliothèques, donc c'était un problème matériel. Et ce sont plutôt les bibliothécaires qui donnait le titre à l'ouvrage en question. Les bibliothécaires et puis aussi les disciples, ceux qui se vouaient à l'interprétation d'Aristote et de Platon. Donc le titre « Ta Meta Physica » et « Ta Meta Ta Physica » est donné pour la première fois, on le trouve pour la première fois, il n'est pas donné, chez quelqu'un qui s'appelle Nicolas de Damas, qui est au premier siècle de notre ère. Donc ça fait quand même quelques siècles après l'écriture de cet ouvrage. Donc « ta meta ta physica » en grec, ça veut dire « c'est du neutre, pluriel ». En fait, ça pose des problèmes de traduction parce que c'est du neutre pluriel. Donc ça veut dire « les traités qui viennent après les choses physiques ». Quelles sont ces choses physiques? Ça pourrait être les ouvrages qui viennent après les traités sur la physique. Et donc, ça serait donc un ordre de succession dans les dialogues, un ordre de succession dans les ouvrages d'Aristote. Mais un grand spécialiste, Paul Moreau, a montré que dans la liste primitive des ouvrages d'Aristote, qui est arrivé à reconstituer, la métaphysique ne suit pas les ouvrages qui portent sur la physique. Et donc, une fois abandonné cette première piste, deux autres voies vont s'ouvrir devant nous. C'est, ça va être, ce titre indique la dignité de l'objet en question, et ça va être aussi un rapport chronologique, un rapport épistémologique dans l'ordre de lecture des ouvrages d'Aristote. Donc, on commence par la question de la dignité de l'objet de la science correspondante. Donc, les ouvrages, ta meta ta physica, ce seraient les ouvrages qui viennent après les ouvrages sur la physique, parce qu'ils sont supérieurs. En quel sens ils sont supérieurs? Donc, au début du livre Gamma, en effet, c'est-à-dire le livre 3 de la métaphysique, parce qu'en grec, les nombres, qu'on appelle les nombres arabes, n'étaient pas inventés, et donc on classait les nombres, on donnait aux nombres le nom des lettres. Donc, alpha c'est 1, gamma c'est 2, alpha c'est 1, bêta c'est 2, gamma c'est 3. Donc au livre Gamma de la métaphysique, Aristote explique qu'il y a autant de parties de la philosophie qu'il y a d'êtres. La philosophie qui a pour objet l'être immobile, éternel, est donc la première. Cette conception donc s'intègre dans la classification aristotélicienne des sciences historiques. La philosophie première est d'ailleurs définie comme une théologie. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Une théologie qui se juxtapose au sein de la philosophie en général à une philosophie seconde qui est la physique, les mathématiques occupant la troisième place. Donc chacune de ces sciences correspond à un genre d'être en particulier. Donc il y a trois genres d'êtres. Donc il y a les êtres physiques, les êtres mathématiques et la théologie, les êtres, les dieux. Donc, comment caractérise-t-on ces trois genres d'êtres? La physique, c'est l'étude des êtres séparés, mais qui sont mobiles. Donc, ça va de tout ce qui nous entoure jusqu'aux astres, jusqu'au corps céleste. Les mathématiques, ça étudie des êtres immobiles, mais non pas séparés, parce que le nombre est toujours associé à une réalité nombrée. Et enfin, on a la théologie qui étudie les êtres immobiles et séparés. Donc le problème fondamental, c'est de savoir ce que signifie le terme séparé. Donc le terme séparé présente deux sens, car il peut désigner soit ce qui est séparé de la matière, soit ce qui subsiste par soi et en soi, et qui n'a donc besoin d'aucune autre chose pour exister. Alors la séparation devient la propriété essentielle de la substance. Donc chez Platon, les deux sens coïncident, car la forme qui est séparée du sensible est la seule réalité vraiment subsistante. Mais cette coïncidence n'intervient pas chez Aristote. La substance physique est séparée au sens où elle subsiste en soi, car elle est plongée dans la matière. L'être mathématique est séparé de la matière, mais n'est pas subsistant par soi, car c'est un être abstrait, et donc qui est toujours associé à une réalité. Et seul l'être divin peut être disséparé dans les deux sens. Pour Aristote, donc, en tout cas sur ce point-là, le platonisme reste donc vrai. Donc, on arrive à cette idée paradoxale, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, que l'étude de la physique devient impossible si on n'associe pas le mouvement des choses qui sont sous la Lune, les mouvements sublunaires, au mouvement des corps célestes, lesquels dépendent d'un premier moteur immobile. Et donc, c'est l'idée fondamentale que l'on retrouve chez Aristote, et vous verrez comment cette idée s'accorde avec ce que voulait signifier Platon, et comment cette idée nous permet de comprendre comment, justement, la métaphysique avait une place, même si cette activité n'était pas nommée dans le monde grec. Donc, dans les ouvrages de la physique, la philosophie première est le plus souvent décrite comme science de la forme, alors que la physique n'étudie que des formes engagées dans la matière. Et ça, c'est ça qui est important, c'est que la physique, donc, étudie bien les formes, parce que sans forme, un corps n'a aucun sens, mais cette forme est engagée dans la matière. Mais la forme à l'état pur, c'est-à-dire séparée, n'existe que dans le domaine des choses divines, et c'est l'existence d'un tel domaine qui fonde la philosophie, et qui fonde la possibilité d'une philosophie autre que la philosophie de la nature. Donc on a donc le monde physique avec les formes qui sont engagées dans la matière, et pour Aristote, il existe des formes pures, et ces formes pures ne peuvent être que des divinités. Et donc on voit la différence entre Platon et Aristote à ce niveau-là. Donc, pour Platon, pour chaque chose sensible, particulière, il existe une réalité intelligible, séparée complètement du sensible, et dont participent les choses sensibles. Alors que chez Aristote, vous avez quand même un domaine des formes engagées dans la matière, c'est le domaine de la physique, et vous allez avoir un domaine des formes pures qui sont celles de la divinité. Donc, si le divin n'existait pas, dans le cas d'Aristote, la physique serait toute la philosophie. Mais le divin et la théologie doivent être considérés comme la philosophie première. Encore faut-il définir ce qu'on entend par théologie. Comme le veut Simplicius, la théologie, c'est une science qui traite des formes totalement séparées de la matière et de l'activité pure de l'intellect en acte. Donc les aristotéliciens l'appellent théologie, philosophie première et métaphysique, meta, ta, physica. Donc on retrouve effectivement chez Simplicius cette formule, ta meta, ta physica, et ça veut bien dire que ce sont des ouvrages qui traitent de formes pures, c'est-à-dire de formes qui ne sont pas engagées dans la matière. Donc ça, on retrouve ça dans le commentaire de Simplicius sur la physique, qui, comme vous l'avez dit, est un réservoir très important pour les fragments des présocratiques qu'on ne connaît que par fragments. Et donc on retrouve chez Aristote des formules qui vont en ce sens. On retrouve par exemple au début de la métaphysique, au début de la physique, en 1.4, 271 à 33, Dieu et la matière ne font rien en vain. Dieu et la nature ne font rien en vain. Et donc là, on a quelque chose d'un peu bizarre, dans la mesure où le kai en grec, qui est contraduit par e, peut être épiclétique, c'est-à-dire que, à la limite, la nature devient la divinité. Et donc ça se comprend dans la mesure où le premier moteur, c'est ce qui rend compte de ce qui est en mouvement dans les corps célestes et dans notre monde. Et donc, la nature, qu'est-ce que c'est pour Aristote? Donc, la nature, c'est le principe du mouvement et du repos. Donc, dans cette perspective, l'être naturel est un être en mouvement dont la source se trouve dans un moteur immobile. D'où cet enchaînement. Donc, la nature sublunaire imite la nature subsistance des corps célestes, de la même façon que le mouvement circulaire des corps célestes imite l'immobilité du premier moteur. Donc on retrouve ça dans un autre livre de la métaphysique, en tête à 8050b. Dans ce contexte, la question qui sous-tend la possibilité de l'existence d'une métaphysique est la suivante. Existe-t-il ou non, à part des êtres sensibles, un être immobile et éternel, et si cet être existe, qu'est-il? C'est la question que pose Aristote au livre Mu de la métaphysique en 1076a. Donc, j'ai éliminé une explication du titre Ta Metata Physica comme classement des ouvrages. Ensuite, j'ai essayé d'expliquer, et je pense que c'est l'explication qu'il faut retenir, ta métaphysica dans le sens de la dignité de l'objet étudié. Donc ta métaphysica, c'est l'étude des formes pures séparées de la matière. Et pour Aristote, c'est la divinité. Les divinités, parce que c'est plus ou moins, il y en a plusieurs, et même si on aboutit au premier moteur, la situation dans le monde divin est très complexe. Donc ça, c'est la deuxième explication de ta métataphysica, qui, me semble-t-il, doit être acceptée comme étant la plus plausible, mais on verra que ça pose des problèmes, comme je vais tenter, comme les commentateurs contemporains l'ont expliqué. Donc, il y a une troisième explication de metata physica, c'est un rapport chronologique dans l'ordre de la connaissance. Donc, comme je vous l'ai dit, les interprètes de Platon travaillaient dans des écoles. Ces écoles avaient un cursus d'enseignement. Et dans ce cursus d'enseignement, il y avait une hiérarchie. C'est-à-dire qu'en gros, en général, on commençait par Aristote et on poursuivait par Platon. C'était le cas dans l'école néoplatonicienne d'Athènes où travaillait Simplicius. Donc, dans ce cursus d'enseignement, les ouvrages d'Aristote venaient en premier, et ensuite, c'était Platon.
Mais parmi les ouvrages d'Aristote, on avait aussi un classement, et un classement en fonction de ce que je viens de vous dire, en fonction de la dignité de l'être étudié. Et donc, comme le veut Alexandre d'Aphrodise, qui est un... Je suis désolé de vous citer ses noms, mais enfin, ça vous apprendra à... ça vous mettra dans l'oreille des noms qui reviendront peut-être dans l'enseignement qu'on vous donnera. Donc, dans Alexandre d'Aphrodise, qui est un aristotélicien très important du IIe siècle de notre ère, on lit « La science recherchée et dont il s'agit maintenant, c'est la sagesse ou la théologie à laquelle Aristote donne aussi le titre métaphysique, metaphysica, en raison du fait que, dans l'ordre, elle vient après celle-ci, la physique, du point de vue qui est le nôtre. » Donc, Alexandre, c'est dans son commentaire sur la métaphysique. On voit très bien que Alexandre extrapole, parce que avant Nicolas de Damas, on ne cite pas l'ouvrage d'Aristote ainsi. Mais donc Alexandre venait après Nicolas de Damas, et il avait l'habitude d'appeler ses ouvrages Ta Metata Physica. Donc, Asclépius, donc, qui lui était un néoplatonicien du VIe, et donc là c'est plus compréhensible, on lit dans son commentaire sur la métaphysique, en fait c'est moins un commentaire qu'une paraphrase, mais enfin, l'ouvrage Ta Metata Physica a pour titre métaphysique, Ta Metata Physica, parce que, après avoir traité dans un premier temps des réalités physiques, Aristote traite ensuite, dans cette discipline, des choses divines. Donc, on revient toujours à la même idée, donc on a d'abord la logique et les mathématiques, la physique, et ensuite ce qui vient après la physique, ce qu'on appelle, nous, la métaphysique. Mais en fait, les choses sont pas aussi simples que ce que je viens de vous dire. Et ça, on le voit très bien en lisant deux livres des années 60 qui ont une position très différente concernant la question. Donc, le premier livre, c'est celui de Pierre Aubanc, qui est un grand bonhomme, et qui s'appelle « Le problème de l'être chez Aristote », publié au PUF, au Press universitaire de France, en 62. Et le livre de Pierre Aubanc, en ce qui concerne la métaphysique et Aristote, reste vraiment un ouvrage de référence. Même s'il a été écrit en 1962, donc il y a plus de 50 ans. Et donc pour Pierre Aubanc, il est déflationniste, lui. L'usage de l'expression « ta meta, ta physica » Donc, si l'usage de l'expression ta metata physica n'a pas été retenu par les premiers éditeurs des traités d'Aristote, comme je vous l'ai dit, le titre est arrivé relativement tard. C'est qu'ils ont renoncé à retenir comme titre une désignation dont Aristote lui-même avait fait un titre. Donc, il préférait utiliser sur la philosophie première, ta perites protes philosophias, qui correspond à la théologie, theologia. En effet, dans les deux passages du corpus aristotélicien, l'expression philosophie première semble être employée à titre de référence et ne peut s'appliquer qu'à l'exposé théologique du livre Lambda, et c'est le cas aussi dans le traité du ciel, et dans le traité sur le mouvement des animaux. Donc, on peut donc dire, comme Pierre Aubanc, que par le refus du titre de philosophie première et de métaphysique, les éditeurs reconnaissaient l'absence de préoccupation théologique dans la majeure partie des écrits métaphysiques. Donc vous voyez quel est le problème. Le problème, c'est que dans ce qu'on appelle la métaphysique d'Aristote, la théologie n'apparaît que dans deux livres, le livre Mu et le livre Lambda. Le livre Lambda, parce que ça vient avant, et le livre Mu, ça doit être les livres 12 et 13. Et donc le reste traite de sujets divers, par exemple les catégories, la substance, la matière, etc., etc. Donc Pierre Auban est déflationniste et il dit qu'effectivement, si on n'a pas donné comme titre à ce qu'on appelle, nous, la métaphysique, philosophie première ou métaphysique, c'est précisément parce qu'il n'y avait que deux livres qui portaient sur la théologie, donc sur la métaphysique. Donc, Metataphysica avait d'abord une valeur de description chez les bibliothécaires et chez les interprètes d'Aristote. Donc l'expression indique le caractère post-physique d'une recherche qui non seulement dans les analyses de certains livres, je ne vais pas vous donner les lettres grecques, mais parce que ça ne vous dira rien, sur l'être sensible, mais aussi dans les passages proprement théologiques du livre Lambda. Et donc, la position de Pierre Auban, qui, comme vous l'avez dit, reste un auteur de première main, c'est une position déflationniste, c'est-à-dire que si on n'a pas appelé métaphysique cet ouvrage d'Aristote, c'est qu'en fait, il n'y a que deux livres qui portent vraiment sur la théologie, ce sont les derniers. Et parfois, de conséquence, on comprend parfaitement qu'on a attendu si longtemps pour parler de ta méta ta physica et qu'on n'ait pas donné dans l'Antiquité à ces livres, qu'on n'ait pas qualifié ces livres de métaphysique. Donc les traités Ta Meta Ta Physica ne constituaient que deux livres sur 13. Donc, en revanche, Vianney Descaries, qui est un Québécois, mais qui a fait sa thèse à Paris, a publié une année avant Pierre Auban un livre qui s'appelle L'objet de la métaphysique selon Aristote. Donc ça a été publié à Paris chez Vrin en 61. Mais Vianney Descaries, qui était un ami de Pierre Auban, est d'accord pour dire qu'effectivement il n'y a que deux livres dans l'ouvrage d'Aristote qui portent sur ce qu'Aristote considère comme métaphysique, mais l'étude de la nature converge vers les corps célestes qui sont des dieux et ces corps célestes sont mis en mouvement par le premier moteur qui est la première divinité. Donc en effet, seule la seconde partie du livre Lambda est consacrée aux questions théologiques et ça Vianney Descaries l'admet. Sous la forme d'une explicitation de l'essence du premier moteur, dont la nécessité est par ailleurs démontrée au livre 8 de la physique. Bref, ta meta ta physica aurait d'abord valeur de description, donc l'expression indiquant le caractère post-physique d'une recherche qui non seulement dans les livres zeta, eta et theta sur l'être sensible, mais aussi dans le passage proprement théologique du livre Lambda, prolongeait à un niveau plus haut d'abstraction la recherche des principes. Mais en même temps, le titre Ta Meta Ta Physica préservait l'idée d'une philosophie première qui était théologie. Donc telle est l'argumentation développée par Vianney Descaries dans son livre sur l'objet de la métaphysique. Et je cite quelques lignes de ce livre. Comme toute science, la philosophie première est la connaissance d'un objet par ses causes et principes, mais à la différence des autres sciences, et se prononce sur ces principes. Elle porte un jugement sur leur essence et sur leur existence. C'est ce qui lui vaut d'être la connaissance scientifique suprême, la sagesse, et comme ces principes sont divins, cette sagesse est théologique. Donc, vous voyez, la stratégie de Descaries est la suivante. Donc, Pierre Auban a raison de dire qu'il y a très peu de choses dans la métaphysique d'Aristote qui portent vraiment sur ce que Aristote nomme philosophie première, nomme théologie, et donc qui devrait correspondre à la métaphysique, mais c'est le sommet, sans l'explication par le premier moteur, sans tenir compte des corps célestes, l'être physique, c'est-à-dire les mouvements, les corps sublunaires en mouvement, n'aurait aucune, on ne pourrait leur donner aucune cause, on ne pourrait en trouver aucun principe. Donc voilà en ce qui concerne le premier texte. Et si vous le voulez, on va lire le second texte, si j'arrive à le trouver. C'est un texte de Basile de Césarée. Oui, Basile de Césarée. Bon, qui était Basile de Césarée? Donc je peux continuer ou... D'accord. On va lire le texte de Basile de Césarée, mais je vais essayer de vous situer dans l'histoire. Donc, encore une fois, je veux dire, j'utilise des textes qui sont compliqués pour vous, des noms que vous n'avez peut-être jamais entendus, mais tout à l'heure, j'aimerais bien que vous me posiez des questions et que vous n'ayez pas peur de poser des questions. Ça me fera un plaisir de répondre à toutes les questions. Donc, qui était Basile de Césarée? Basile de Césarée a vécu au IVe siècle de notre ère, et c'était Césarée en Cappadoce, c'est maintenant Kayseri en Turquie, et il a vécu de 330 à 379 de notre ère, et c'était un élève de Libanius. C'est un élève de Libanius. Libanius, c'était un rhéteur, et Basile aussi était un rhéteur, mais c'était un rhéteur chrétien, et il est considéré comme un père de l'Église. Et c'est la raison pour laquelle donc, j'indique, en ce qui concerne les manuscrits, l'édition Garnier, qui est une édition de 1721 et qui a été repris dans la patrologie grecque dans le tome 30. Bon, il y a des problèmes d'authenticité pour cet ouvrage, qui est un commentaire sur Isaïe, mais on peut considérer que maintenant, on considère que l'ouvrage est authentique. Et ça me permet de vous citer ce passage qui devrait comprendre une occurrence du terme métaphysique. Et comme je vais essayer de vous l'expliquer, je pense que ce n'est pas le cas, et que ce chrétien qui était un platonicien, et c'est pour ça que je passe maintenant d'Aristote à Platon, ce chrétien qui est un platonicien va aller dans le même sens qu'Aristote, mais dans un contexte totalement différent, qui est le contexte platonicien. Donc je lis le texte, c'est le commentaire sur Isaïe, chapitre 5 et section 162 dans l'édition, dans une édition plus moderne que celle de Garnier. Donc c'est pourquoi, dit le psaume, donc Basile c'est un chrétien, il va citer les psaumes et les évangiles. Donc c'est pourquoi, dit le psaume, c'est le psaume 5-4, « Au matin je me tiendrai près de toi ». Et je contemplerai, c'est un terme très important, et c'est là-dessus que je vais essayer de vous expliquer les choses dans la suite. Et Epopsomai, ça veut dire donc contempler, regarder avec fixité, regarder avec intérêt, regarder avec rigueur. Si en effet tu es disposé à rester auprès de Dieu, tu ne saurais te trouver en aucune situation difficile. Eh bien, fais ce qui a été prescrit par Moïse, tiens-toi devant ma face à moi, ferme, inébranlable. C'est une citation d'Exode 33-21. Et immobile, affermi dans la foi même, pour devenir digne de contempler le spectacle de la vérité. Donc, katoptehen, ta, tes, aletheias, teamata. Encore une fois, c'est des termes très chargés. Donc, katoptehen, ça veut dire regarder aussi. Et la cataroptique, par exemple, ou l'optique, vient de ce verbe. Si on enlève le préfixe, vous retrouvez optique. Donc, c'est regarder, ta, les choses, ta, teamata, c'est les représentations, qu'est-ce que j'ai mis ici, les spectacles, oui. Teamata, théâtre vient de là, hein. Contemple les spectacles de Thès, aletheias, c'est la vérité, bien évidemment. Je me tiendrai près de toi, dit le psaume, et je contemplerai, on retrouve Epopsomai, donc c'est toujours la même chose, Epopsomai, et je contemplerai. Aussi longtemps, en effet, que quelqu'un fait partie de ceux qui se plaisent à contempler, théoretikostis, la beauté qui se trouve, donc vous voyez, théoretikos, c'est la même racine que katoptehen, la beauté qui se trouve dans les choses visibles, celui-là sera appelé physicien, physikos, tis. Donc, celui qui s'intéresse aux choses sensibles, c'est un physicien, ou expert en physique. C'est comme ça que j'ai traduit physiologos. En général, les Français traduisent par physiologue, mais pour moi, ça ne veut rien dire. Donc, c'est vraiment... physiologos est un équivalent de physikos. En revanche, lorsque étant... Donc, si on contemple les choses sensibles, qui sont la création de Dieu, et si on est capable de voir la beauté dans ces choses sensibles, on est un physicien. Mais on peut aller plus loin. En revanche, lorsque, étant allé au-delà de ce niveau de réalité, il se tient près de Dieu lui-même, bon, c'est un chrétien, ça n'a rien à voir avec le monde païen, mais on va voir comment il va retomber sur ses pieds. Il se tient auprès de Dieu lui-même, après qu'il a connu d'une certaine façon toutes les choses qui sont belles, et une fois qu'à partir de la beauté qui se trouve dans les choses d'ici-bas, il s'est élevé vers ce qui est réellement beau et désirable, to ontos kalon kai erasmion. Donc là, c'est vraiment le platonicien qui parle. Pour Platon, donc les choses sensibles ne sont que des images, et la réalité véritable, to ontos, donc on c'est l'être, et ontos c'est ce qui est réellement, kalon c'est la beauté, et erasmion c'est le désirable, et dont la contemplation est naturellement réservée aux âmes purifiées, types, psychais, katairais, donc on retrouve purifié, c'est cathartique, etc., etc., et catharsis. Alors, après s'être élevé jusqu'à ce domaine qui se trouve plus haut que l'étude de la nature, epita tes physiologias anotera procopsas, donc procopsas, ça remonte à Oraopsomaiaidon, c'est le verbe voir, à la oriste. Et donc on retrouve toujours cette idée de voir. On peut dire que certains... alors, après s'être élevé jusqu'à ce domaine qui se trouve plus haut que l'étude de la nature, epitates physiologias anotera procopsas, ce domaine qui chez certains est appelé métaphysique, ta calumela paratici metaphysica. Donc on retrouve ici, on devrait trouver une occurrence de métaphysique, au moins une occurrence dans tout ce monde grec qui comprend des centaines d'ouvrages. On peut dire que celui-là fait partie de ceux qui ont atteint à la contemplation suprême, donc époptikos, et on verra ce que ça veut dire. Lors donc, dit le psaume, que je me tiendrai près de toi et que je m'approcherai de cette contemplation te concernant et qui se fait par l'intermédiaire de l'intellect, et peidan un fessi soi parastou kai aute te perissou teoria diatounou prosengissou. Donc, cette contemplation, ce n'est pas celle des sens, c'est celle de l'intellect. Alors, je pourrai avoir la capacité de la contemplation suprême, ten epoptiken energeian, par le moyen de l'illumination dispensée par la connaissance intellectuelle. Tout kata ten gnosin photismou. Donc, si on suit l'édition ancienne, l'édition de Garnier du XVIIIe siècle, on lit ta meta, metaphysica. En revanche, si on utilise un manuscrit beaucoup plus ancien, 9e, 10e siècle, c'est pour les manuscrits qui nous restent, c'est vraiment très, très intéressant. C'est très rare les manuscrits qui dépassent le 7e, 8e. Donc là, on est au 9e, 10e siècle. Et donc, on lit non pas ta calumena paratissi metaphysica, on lit ta calumena paratissi metaphysine. Donc, ce qui est appelé ta calumena paratissine par certains, metaphysine, au-delà de ce qui se trouve au-delà de la nature. Et donc là, on retrouve donc un sens qui correspond beaucoup mieux à ce que j'ai décrit tout à l'heure. Mais là, on se retrouve dans un milieu, dans un contexte non plus aristotélicien, mais platonicien. Et donc, ce que je voudrais expliquer, c'est comment donc on arrive à ce vocabulaire qu'utilise Basile de Césarée, qui est le vocabulaire des mystères grecs. Je pense que c'est un sujet vraiment passionnant et qui peut vous intéresser parce que donc là, on quitte plus ou moins le domaine, pour un moment, le domaine de la philo pour le domaine de la religion grecque. Et l'idée fondamentale est la suivante. L'influence de Platon, l'influence même dans des écoles, l'influence de Platon a duré pratiquement un millénaire. Et au cours de ce millénaire, l'interprétation de Platon s'est diversifiée et s'est développée. Donc Platon meurt en 348, et en 348, une école qu'il avait fondée perpétue sa doctrine, et c'est ce qu'on appelle l'ancienne académie, qui est d'abord dirigée par son neveu Spusi, puis ensuite par Xénocrate. Mais ça n'a pas les noms n'ont pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est de comprendre que l'ancienne académie était en rivalité avec l'école d'Aristote, et on avait sujets de lecture et des sujets de discussion qui portaient sur les derniers dialogues de Platon, c'est-à-dire essentiellement sur les dialogues moyens et sur les derniers dialogues de Platon, c'est-à-dire des dialogues comme le Phédon, le Phèdre, où la doctrine des formes intelligibles est développée, puis ensuite le Parménide, le Timée, et même les lois que Platon avait laissées inachevées avant sa mort. Donc on a cette première école de platonicienne qui s'oppose à Aristote. Très rapidement, à partir du IIIe siècle, l'école, l'académie va se modifier et là, on va avoir une académie qui va s'attaquer aux stoïciens. Et pour les stoïciens, le critère de la vérité, c'était la sensation. Et donc, les platoniciens vont passer beaucoup de temps à essayer de détruire ce point de doctrine fondamentale chez les stoïciens, qui est que la vérité ne peut nous être fournie que par la sensation. Et donc, l'école va se mettre à développer toutes sortes d'argumentations dialectiques pour montrer que les sens ne nous donnent pas une vérité rigoureuse, ça n'est que des apparences, etc. etc. Et ce platonisme a perdu tout ce qui se situait au-delà du sensible, parce que c'est un platonisme qui est devenu aristotélisant et stoïcisant, ce platonisme à l'orée de l'ère chrétienne va subir un changement très profond, parce que les platoniciens vont refuser considérer que Platon se réduit à la critique des choses sensibles. Et très bizarrement, mais je n'ai pas le temps de vous l'expliquer ce soir, mais ça correspond à un mouvement qui touche la société grecque et romaine tout entière. C'est-à-dire que un peu avant le début de notre ère, et c'est sensible aussi chez Cicéron, c'est sensible chez Antiochus d'Ascalon, qui était un contemporain de Cicéron, les gens en général et les savants en particulier vont commencer à douter de la validité de la raison humaine. Et ils vont essayer de chercher, la vérité dans la parole des dieux, exprimée dans les oracles et exprimée dans les mystères. Et je pense que ce mouvement social et historique explique en grande partie la victoire du christianisme à cette époque. Mais à l'époque, la religion de Mithra ou la religion d'Isis aurait pu prendre cette place. Parce que ce qui était important, c'est qu'on se fiait non plus à la parole des hommes ou à l'intellect humain, mais on donnait son assentiment à une parole qui venait directement des dieux par les oracles et par les mystères. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est que les mystères, et puis ensuite, j'indiquerai le passage de Platon dans le Phèdre qui justifie ce changement de perspective. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire le fragment 24 d'un certain Numinius qui a écrit un livre justement sur l'infidélité de l'Académie par rapport à Platon, où il justement justifie ce changement de perspective, c'est-à-dire que ce n'est plus l'intellect humain qui est source de vérité, mais c'est la révélation, ce sont les révélations divines. Donc, d'Anuménius, il ne nous reste que des fragments, et ils ont été réunis par des places chez aux Belles-Lettres. Et donc, si ça vous intéresse, vous lisez ces fragments qui sont pas faciles à comprendre et à lire, parce qu'ils sont, très rhétoriques, mais c'est ce qu'ils expliquent, ce changement de perspective complet chez les gens et chez les savants de l'époque avoisinant le début de notre ère. Donc, je vais vous décrire ici le déroulement des mystères d'Eleusis qui vont être le paradigme utilisé par les intellectuels, les savants de l'époque. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que la religion grecque, c'était une religion traditionnelle, c'est-à-dire que on avait un certain nombre de dieux en commun, les cités avaient un certain nombre de dieux en commun, on pouvait en enlever, on pouvait en accepter des anciens, on pouvait en enlever, on pouvait en accepter des dieux étrangers. Par exemple, le début de la République de Platon, c'est un festival en l'honneur de Bendis, qui était une déesse étrangère et que Athènes allait inclure dans son panthéon. Et donc, c'était une religion traditionnaliste qui était orientée vers la cité. On demandait aux dieux de donner à la cité plus d'argent, plus de pouvoir et surtout de ne pas être détruite dans les guerres. Donc c'était une religion civique, une religion traditionnelle qui était différente selon les cités. Et il ne faut pas comprendre, il ne faut pas estimer que les cités à l'époque c'était très gros. Hein. Je veux dire, à Athènes, il y avait aux alentours de 90 000 citoyens, donc ça faisait une population qu'on devait doubler, mais si on tenait compte des femmes, des enfants et des esclaves. Mais donc c'est une religion traditionnelle, civique et très morcelée. Et donc il n'y avait pas de place dans ces religions pour des considérations individuelles. Et ces considérations individuelles vont être assouvies par ce qu'on appelle les religions mystères, qui, comme l'explique Walter Burkert, là, qui a écrit un livre remarquable qui s'appelle Greek Religion, c'est une religion votive, c'est-à-dire qu'on va, par l'intermédiaire de cérémonies, se vouer à une déesse ou à un dieu qui va vous protéger individuellement. Parce que, comme je l'ai dit, la religion officielle, c'est une religion civique, qui va protéger la cité. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de dogme, parce que les mythes pouvaient changer selon les interlocuteurs, et les prêtres étaient des magistrats qui, très souvent, étaient soit nommés, soit élus. Et donc, on n'a rien qui correspond à nos religions monothéistes actuelles. Donc, comment se déroulaient les mystères des Léusis ? Vous allez voir comment tout ça... correspond ce que j'ai dit, ce que Basile dit dans le passage que je vous ai lu. Donc l'initiation était individuelle, donc elle comprenait deux degrés, des préliminaires lors des petits mystères et l'initiation proprement dite lors des grands mystères. L'initié est qualifié de mystès, et il est guidé par le mystagogue, c'est-à-dire le type qui est le promoteur de ces mystères. Et mystès vient, on ne sait pas très bien l'étymologie, mais en gros, les Grecs donnaient comme étymologie la notion de le sens de le qualificatif de silence. C'est-à-dire qu'on devait participer à ces cérémonies, mais ensuite, on ne devait pas en parler. Donc, les petits mystères, donc les grands mystères, c'était une fête où il y avait peut-être 4 ou 5 000 personnes. Et les petits mystères, eux, étaient célébrés au début du printemps à Athènes et plus précisément à Agra, sur la rive orientale de l'Ilissos. On ne sait pas très bien en quoi consistaient les cérémonies qui s'y déroulaient précisément parce qu'il y avait l'obligation du silence. Donc les grands mystères étaient célébrés à l'automne et fin septembre ou début octobre. Ils duraient 10 jours. Le jour précédent le début des cérémonies, on transportait d'Eleusis à Athènes les objets sacrés. Ces objets sacrés étaient conservés dans un temple, dans une pièce à l'intérieur d'un temple. Donc le premier jour devait être consacré à la vérification des candidats, le second, ceux qui avaient été admis allaient se purifier dans la mer et offraient un sacrifice. Le troisième jour, on offrait des sacrifices. Il semble que le quatrième jour ait été un jour de repos. Le cinquième jour, les objets sacrés étaient ramenés à Eleusis, où ils retrouvaient leur place dans le temple. Et le sixième jour, après avoir jeûné et bu une boisson sacrée, dont on ne sait rien, on procédait à l'initiation proprement dite. En quoi consistait cette initiation? À peu près sûr que les rites comprenaient trois éléments, donc des droménas, c'est-à-dire des représentations dramatiques, probablement la recherche par Déméter de sa fille Corée qui avait été enlevée par Pluton, Hadès, les decnuménas, les objets sacrés qu'on montrait, et les legomenas, les commentaires qu'on faisait sur les droménas. Et donc, qu'en était-il de chacun de ces éléments? Donc, les droménas devait consister en des représentations dramatiques de l'enlèvement et de la recherche de Corée par sa mère, Déméter. On ne peut savoir si les légoménas consistaient en de brefs commentaires sur les droménas ou en des mythes qui mettaient à jour les droménas, que mettaient en scène les droménas. Quoi qu'il en soit, il était essentiel qu'on comprenne ces éléments, sinon l'initiation était annulée. Les decnuménas, les objets sacrés qui étaient montrés, jouaient un rôle essentiel. Le prêtre le plus important des mystères d'Eleusis était le hiérophante, c'est-à-dire celui qui montre les objets sacrés. Que pouvaient être ces objets sacrés? Il est impossible de le savoir avec certitude, mais on peut penser qu'il s'agissait de petites reliques mycéniennes transmises de génération en génération, au sein d'un groupe de prêtres qui appartenaient tous à la même famille. Et au septième jour, on déclarait la clôture des cérémonies. Le huitième jour, on offrait des libations et on célébrait des rites en l'honneur des morts. Le neuvième jour, on retournait à Athènes, non pas en procession, mais individuellement. Et le dixième jour, un conseil se réunissait pour entendre le rapport de l'archonte roi sur le déroulement des cérémonies. Et un an après l'initiation, proprement dite, certains initiés étaient admis à un grade plus élevé. Quelques-uns des objets sacrés étaient montrés à ceux qui voulaient compléter ainsi leur initiation. Donc, on sait très peu de choses concernant ces mystères, mais l'idée essentielle est la suivante. Donc, tout était associé autour, tout était relié au mythe de Déméter qui recherchait sa fille Corée enlevée par Hadès. Et le sommet de cette initiation, c'était la contemplation d'objets sacrés à des gens qui avaient été choisis et qui s'étaient montrés dignes de cette vision, de cette contemplation. Et dans cette perspective, donc, les mythes et les mystères étaient considérés comme deux voies parallèles qui menaient l'homme au divin. Et que l'on parte d'un bout de la chaîne ou de l'autre. Donc, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. C'est que, comme je l'ai dit, les platoniciens, à l'orée de notre ère, vont placer la vérité et la rigueur, non plus dans l'intellect humain, mais dans la révélation des dieux. Et cette révélation pourra se faire de deux façons, soit par les oracles, et donc là, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais allez, c'est l'époque où on va fabriquer des oracles chaldaïques, c'est-à-dire que un médium va parler au nom de Platon et révéler les mystères platoniciens. Et donc, et révéler les doctrines platoniciennes. Et donc, il y a les mystères aussi. Et donc, ce qui est intéressant pour les mystères, c'est que, comme vous le voyez, les mystères ont pour sommet la vision, la contemplation d'objets sacrés. Alors, pour un platonicien, ces objets sacrés, ce sont les formes intelligibles. Et ce sont les formes intelligibles et donc on va à partir de là associer l'enseignement des doctrines de Platon à la vision, à un mystère. Donc le prof va devenir celui, le hiérophante, celui qui va faire apparaître aux yeux de ses disciples ces objets sacrés que sont les formes intelligibles. Et vous allez me dire, c'est complètement délirant, et comment un platonicien peut en arriver là? Eh bien, ils en arrivent là en se fondant sur un passage très intéressant du Phèdre de Platon, qui est un dialogue absolument magnifique. Hein, donc, c'est Socrate qui parle. Socrate, mais n'est-ce pas? Il y a deux espèces de folie, l'une qui est due à des maladies humaines, l'autre à une impulsion divine qui nous fait rompre avec les règles habituelles. Donc, c'est dans le cadre du dialogue, Socrate est en train de faire un discours, un très beau discours, et il va essayer de montrer que la folie a une valeur positive. Non pas la folie qui est due à des maladies humaines et qui fait qu'on ne respecte pas les codes sociaux, mais la folie qui est due à une intervention divine et qui va prendre quatre formes. Et donc on va voir tout de suite l'énumération de ces formes. Donc Phèdre, c'est juste. Socrate. Et donc là, on a les quatre folies divines. Et c'est vraiment intéressant parce que tout au long de l'histoire, on a répété ce passage. Et on l'a appliqué, notamment à la poésie. Donc dans la folie divine, nous avons... Donc la folie humaine vous fait descendre au niveau des bêtes et la folie divine vous fait remonter au niveau des dieux. Dans la folie divine, nous avons distingué quatre parties. Nous avons rapporté à Apollon l'inspiration divinatoire. Ben, c'est normal, puisque à Delphes, la pitié parlait au nom d'Apollon. À Dionysos, l'inspiration initiatique, c'est-à-dire les mystères. Aux Muses, l'inspiration poétique. La quatrième, enfin, la folie amoureuse, nous l'avons rapporté à Aphrodite et à Eros. Et nous avons déclaré que la folie amoureuse était la meilleure. Et comme il va l'expliquer par la suite, parce que là, je n'ai pas le temps de l'expliquer, comme il va expliquer par la suite, la folie amoureuse rapportée à Aphrodite et à Eros, et vous retrouvez ça dans le banquet de Platon aussi, c'est la philosophie. Donc, quand on lit Platon, le Phèdre, le banquet et d'autres dialogues, On voit très bien que la folie amoureuse, qui est celle inspirée par Aphrodite et Eros et qui correspond à la philosophie, se distingue radicalement des trois autres types de folie divine. La folie par les oracles, la divination, la folie par les mystères et la folie poétique. Et donc, chez Platon, il y a vraiment une coupure radicale entre la philo, les oracles, les mystères et la poésie. Et ce que les néoplatoniciens vont faire, comme je l'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont associer ces niveaux, les mettre sur le même plan. Et donc, ça signifie qu'on va trouver la vérité non seulement dans la philosophie, mais aussi dans la poésie, dans les mystères et dans les oracles. Et donc, on va se retrouver avec une philosophie qui intègre tout ça. Donc, les néoplatoniciens vont utiliser l'allégorie pour montrer que Homère et Hésiode ont dit la même chose que Platon, ou quelque chose de similaire. Ils vont utiliser les mystères, comme je vais vous citer, comme je vais vous le montrer dans un texte de Proclus, pour montrer que l'enseignement, c'est la vision d'objets sacrés, et ils vont utiliser les oracles pour faire parler Platon, par exemple, dans la vie de Platon par Porphyre, les disciples de Platon vont demander dans un centre oraculaire qu'est-ce qui est devenu de l'âme de Platon. Et donc là, on va écrire un oracle de plus de 50 vers pour dire que Platon est avec Platon, Pythagore, etc. etc. Donc, comme vous le voyez, ce texte de Basile de Césarée, qui vous parle de contemplation, d'épopsie, c'est-à-dire c'est la contemplation, mais c'est la contemplation suprême, c'est la contemplation de celui qui a été initié, qui s'est livré au mystère. Donc, cette idée que l'enseignement est une révélation, est une contemplation de ces objets sacrés que sont les formes intelligibles, on la retrouve au début d'un ouvrage qui s'appelle La théologie platonicienne par Proclus. Proclus, c'était le notaire des néoplatoniciens, c'est celui qui a donné l'idée la plus, la description la plus rigoureuse, la plus précise du système néoplatonicien. Il était antérieur à Damasius et Simplicius, c'est quelqu'un du 5e, et qui donc a réussi à maintenir l'école dans un état remarquable. Ça s'est dégradé ensuite sous Damasius. Et donc voilà comment il introduit la théologie platonicienne. Donc pour Proclus, Platon, c'est quelqu'un qui a développé une théologie scientifique. C'est une théologie scientifique qui correspond à la deuxième partie du Parménide. Et donc, ce que Proclus, à la suite de son maître Syrianus, fait, c'est de montrer que tous les éléments du système platonicien correspondent à ce qu'on trouve chez Homère et Hésiode, à ce qu'on trouve dans l'orphisme et à ce qu'on trouve dans les oracles chaldaïques. Et donc, c'est la raison pour laquelle son histoire de la philosophie platonicienne est décrite dans des termes qui font référence au mystère. Donc, je vous cite donc le début de la Théole Plate, c'est le tout début. C'est 1.1, page 6 de l'édition Safré-Westering. C'est ce que j'ai fait de l'épopée platonicienne. Donc, vous retrouvez le terme épopteia qui revient plusieurs fois chez Basile. Donc, Basile était antérieur à Proclus, mais déjà, cette idée avait fait son chemin. Ces exégètes de l'épopée platonicienne qui ont déployé pour nous les très simples explications concernant les principes divins, parce qu'ils les avaient reçus une fois, avaient reçu une nature tout pareille à celle de leur guide, c'est-à-dire Platon, je tiendrais volontiers que ce furent Plotin, l'Égyptien, qui a vécu au IIIe, et ceux qui ont reçu la tradition de cette doctrine, Amélius, son assistant, Porphyre, son disciple le plus important, et en troisième lieu, me semble-t-il, ceux qui furent les disciples et qui ont atteint une telle perfection que nous pouvons les comparer à des statues, en fait à des statues divines et à des statues que l'on pouvait faire bouger suivant certains rythmes, enfin peu importe. Donc Chamblic et Théodore d'Assinet. Donc Chamblic et Théodore vivaient à Apamée, en Syrie, et les autres, quels qu'ils soient, qui à leur suite sont entrés dans ce cœur divin pour élever leur propre pensée jusqu'à l'extase dionysiaque que donnent les écrits de Platon. C'est, donc vous retrouvez là, justement, comme je l'ai dit, le dieu auquel sont rapportés les mystères, c'est Dionysos, c'est dans le texte du Phèdre. C'est d'eux que celui-ci, après les dieux, a été notre guide dans tout ce qu'il y a de beau et de bien. Donc c'est d'eux que celui qui après les dieux, a été notre guide dans tout ce qu'il y a de beau et de bien. Ça signifie que c'est le maître de Proclus, Syrianus. Donc, qu'il avait reçu sans mélange dans l'intime de son âme, la très haute et très authentique lumière de la vérité. Et c'est lui qui nous a donné d'avoir part à toute la philosophie de Platon, en général, qui a fait de nous son compagnon dans les traditions qu'il avait reçues en secret des plus anciens que lui, et surtout, qui nous a associés au cœur de ceux qui chantent la vérité mystique des principes divins. Donc c'est très pompeux et très cérémonieux, mais ça montre très clairement que à la fin du platonisme païen, la doctrine de Platon était associée au mystère, en ce sens que les formes pures, les formes dont les choses sensées participent, mais qui sont dissociées des formes, de ces choses sensibles, que les formes pures peuvent être contemplées comme on contemple les objets sacrés dans la dernière phase des mystères. Donc, j'essaie de le faire ressortir ici, c'est que dans l'Antiquité, donc on n'avait pas de terme pour ce qu'on appelle métaphysique, et j'essaierai de vous donner deux raisons pour lesquelles on n'avait pas de terme. Mais donc on retrouve toujours la même idée chez les aristotéliciens et chez les platoniciens, et je dirais même chez les stoïciens et les épicuriens, mais comme eux revendiquent un certain corporalisme, un certain matérialisme, c'est difficile de les associer à tout ça, mais enfin peu importe. L'idée fondamentale chez Platon et chez Aristote et chez leurs successeurs, les interprètes de Platon et d'Aristote, est la suivante. Si on veut rendre compte de la nature, il faut aller au-delà de la nature. Et c'est la raison pour laquelle donc, on a décrit cette activité et cette activité de dépassement de la nature pour aller vers une recherche des causes et des principes de cette nature ailleurs que dans la nature, au-delà de la nature, au niveau de formes complètement distinctes des choses sensibles. Donc, on n'a pas le nom, mais on a une activité philosophique commune. Alors, pourquoi pas le nom ? Je pense que si on n'a pas de mots pour désigner cette activité, c'est pour deux raisons différentes. Donc, la première, et qui semble très évidente, c'est qu'en fait, les expériences ou les modes de vie des aristotéliciens et des platoniciens et leurs doctrines étaient tellement diverses qu'on ne pouvait pas les mettre sous le même vocable qui aurait été le vocable de métaphysique. On n'arrivait pas à mettre, à donner un nom à une démarche qui n'était pas une démarche identique. C'est une démarche qui prenait des formes tellement différentes qu'on n'arrivait pas à donner un nom à cette démarche, même si cette démarche aboutissait toujours à la même chose, c'est-à-dire à dépasser la physis, la nature, le sensible, pour essayer de trouver une interprétation à un niveau supérieur qui, lui, n'était pas sensible. À la limite, je veux dire, là, c'est une mauvaise comparaison, mais enfin, je la fais quand même, c'est un peu ce qui se passe même en science actuellement, c'est-à-dire que quand on fait des recherches cosmologiques, tout ce à quoi on arrive, c'est un modèle qui n'a rien à voir avec le sensible, et tout simplement parce que c'est totalement mathématisé et que ça ne correspond pas à ce qu'on voit, à ce qu'on touche, à ce qu'on sent, etc. Mais ça a une force explicative, et en plus, bizarrement, on arrive en utilisant un certain nombre d'algorithmes et de calculs à avoir une influence, à produire un effet dans les choses sensibles. La deuxième explication pourquoi on n'a pas donné de nom à métaphysique, c'est que très rapidement, et encore une fois, je n'ai pas eu le temps de vous l'expliquer en détail, mais très rapidement, comme vous le voyez, la philosophie a débouché sur la théologie, mais une théologie qui ne correspond pas à une théologie dogmatique, à quelque chose qui se trouve au-delà de l'intellect humain et qui permet de rendre compte du monde, de l'homme et même de la société. Et donc, très rapidement, la religion s'est immiscée dans la philosophie. Et ce lien n'a pas été positif pour la philosophie dans la mesure où la religion permettait aux individus d'obtenir des choses que la philosophie ne pouvait pas leur permettre d'obtenir. En effet, quand vous allez dans un temple, quand vous allez consulter un oracle, quand vous allez vous faire initier à un mystère quelconque, vous avez des avantages, que ce soit pour... Ça vous donne l'espoir de survivre, ça vous donne l'espoir d'être victorieux, ça vous donne l'espoir d'avoir plus de richesses, etc., etc., et ça vous donne l'espoir d'être protégé par une divinité, alors que la philosophie, ça n'est vraiment pas le cas. La philosophie n'apporte aucun avantage particulier aux individus. La philosophie implique un mode de vie ascétique, plus ou moins retiré plus ou moins retirée des relations sociales. Donc, comme vous le voyez, je pense que cette absence d'un terme pour désigner la métaphysique de l'Antiquité est vraiment très riche et vous permet de reconstituer l'histoire de la philosophie dans l'Antiquité jusqu'à la fin de jusqu'à la Renaissance. Voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, pour cette intéressante, riche et savante conférence sur la métaphysique, ou plutôt sur l'absence du terme métaphysique dans la philosophie antique. Donc, l'usage maintenant, c'est de donner la parole aux étudiants, ce que je vais faire, qui souhaitent poser une question.
On va s'adapter à la situation, nous avons un problème de micro. Didier va venir à la...
Alors, j'aimerais avoir un éclairage sur Proclus. Oui. Vous parliez de Proclus, et vous dites que, si j'ai bien suivi, que vous avez dit qu'il dit que Platon a une théologie scientifique, et que tous les éléments du système platonicien correspondent à ce qu'on trouve chez Homère et Hésiode. Mm-hmm. Mais je n'ai pas compris en quoi.
Pardon ?
Je n'ai pas compris en quoi ce qu'on trouve dans le système platonicien est relié à ce qu'on trouve chez Homère ou Hésiode.
La question est vraiment très vaste. Donc, comme j'essayais de vous le dire, les platoniciens, à partir du début de notre ère, ont considéré que la philosophie pouvait être mise sur le même plan que la poésie, les oracles et les mystères. Et donc, il est bien évident qu'en lisant Hésiode et Homère, on ne dit pas Platon, mais par l'intermédiaire de l'allégorie, on arrive à expliquer que Platon et Hésiode disent la même chose que Homère et Hésiode disent la même chose que Platon. Donc, l'idée fondamentale de l'allégorie est la suivante, c'est-à-dire que le langage a toujours un double sens. Et que celui qui est initié au sens, qui sait déchiffrer le sens profond d'Homère et d'Hésiode, va retrouver Platon. Et donc, cette pratique de l'allégorie date des stoïciens. Les stoïciens trouvaient dans Homère et dans Hésiode, leur système physique, leur système cosmologique. Et donc, pour vous donner un exemple, je vais vous parler de l'antre des nymphes par Porphyre. C'est quelque chose de très bizarre. Et donc, il y a une nouvelle traduction qui va être publiée par Vrin l'année prochaine. Donc, l'antre des nymphes, qu'est-ce que c'est ? Donc Porphyre, c'était le disciple de Plotin, celui qui a publié les Énéades, donc les ouvrages de Plotin, 30 ans après la mort de Plotin. On appelle ça les Énéades parce qu'il a réuni les traités platoniciens par groupe de neuf. En grec, Énéas, ça veut dire neuf. Donc, il y avait 6 Énéades qui faisaient 54 traités. Donc, ce Porphyre, qui était un élève de Plotin et qui a été un peu, qui a fait office par rapport à Plotin, comme Saint Paul par rapport au Christ, c'était un très très bon communicant. Et donc, ce Porphyre a découvert dans le dernier livre de l'Odyssée, où Ulysse va cacher les cadeaux qu'il a reçus au cours de son retour vers son île, il va les cacher dans une grotte. Et donc cette grotte, c'est très étrange parce que c'est une grotte qui a deux orifices, il y a des abeilles, etc., etc. Et Porphyre va interpréter ces vers de l'Odyssée qui n'ont rien à voir avec le platonisme, comme décrivant la descente de l'âme humaine des sphères célestes jusqu'à notre monde. Et donc, vous voyez qu'est-ce que ça demande comme subtilité, comme... Et donc, c'est en ce sens-là. C'est-à-dire que pour les platoniciens, les néo-platoniciens, tout langage a un double sens. Un sens superficiel que tout le monde peut comprendre et un sens profond que seuls ceux qui connaissent le système peuvent déchiffrer. Je ne sais pas si vous voyez ce que...
Complètement, merci beaucoup.
Je dis. Et donc, votre question, ça concernait aussi la théologie scientifique, hein, c'est ça?
Oui, mais c'était pour introduire la question, plutôt.
Pardon?
C'était juste pour introduire la question.
Ouais. Non, mais vous savez, je veux dire, on en parlait tout à l'heure avec madame, le Parménide de Platon, c'est un des dialogues les plus désespérants au monde. Donc la première partie, ça va, c'est une série d'objections c'est une série d'objections faites par Parménide à la doctrine des formes et surtout à la participation. Comment des entités séparées peuvent permettre d'expliquer les choses sensibles? S'ils sont séparés, il y a une coupure et c'est fini. Et donc, Socrate, qui est très jeune, n'arrive pas à répondre. Alors, Parménide lui dit, écoute, je vais te donner un exemple d'argumentation que tu pourrais utiliser pour défendre ton système. Et là, il se lance dans 8 séries de déductions qui sont vraiment, même pour un traducteur, insupportables. Et donc, justement, parce que c'est un texte très obscur, à la limite de la compréhension, les néoplatoniciens vont trouver là-dedans une description de toute la hiérarchie divine. Et donc, la théologie scientifique de Platon, c'est ça. C'est une interprétation de la deuxième partie du Parménide de Platon qui est vraiment très difficile à comprendre. Et c'est probablement la raison pour laquelle c'est là qu'on a trouvé la théologie scientifique de Platon. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on se trouve devant une théorie du langage très élaborée et très sophistiquée. Une théorie du langage qui estime que le langage présente au moins 2 couches. Et que celui qui sait lire va réussir à déchiffrer la couche la plus intéressante. Et donc celui qui sait découvrir cette couche la plus intéressante, c'est celui qui est initié. Donc on revient toujours à la même chose.
Merci.
Je remonte à la tribune puisque le micro nous fait défaut. Eh bien, écoutez monsieur, je vous remercie beaucoup. Nous vous remercions. Merci. Beaucoup.
Oui, merci beaucoup.